des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
Vous écoutez
Martineau.
Cube Radio.
Alors, c'est l'ami Alexandre Moranville Ouellet qui arrive avec ses nouvelles inusitées. Et à la toute fin, bien sûr, nous allons parler d'un complot, parce que vous savez qu'il anime d'ailleurs un balado ici même. C'est juste une théorie. 3 épisodes déjà disponibles dans la bibliothèque balado sur les complots. Il va peut-être, à un moment donné, aborder le complot dont il va nous parler en fin de chronique. Alors, Alex, un nouveau traitement inusité contre la dépression.
Ouais, c'est bien spécial. Puis c'est une très petite étude. Là, on s'entend, c'est préliminaire, mais c'est quelque chose que j'avais pas vraiment vu venir. Il y a une étude qui est parue dans le journal Science Translational Medicine cette semaine, qui est menée par l'Université de Chicago de médecine puis le Washington University, qui ont découvert que pour traiter la dépression, mais pas juste n'importe quelle dépression, la dépression qui est résistante au traitement. Donc, il y a des gens qui font de la dépression pendant des années, qui essayent toutes sortes d'antidépresseurs, et pourtant, ça part pas. Ils sont pas capables.
Là, tu parles de grosses dépressions.
Des grosses dépressions qui durent sur des années. Là, on dit que les participants à cette étude-là, c'est des gens qui avaient essayé en moyenne 4 à 5 antidépresseurs différents.
Et c'est des gens qui souffrent énormément, et même, il y en a certains qui voudraient avoir accès à l'aide médicale à mourir, parce qu'ils disent, on a tout essayé, et on peut pas guérir ça.
C'est vraiment dur. C'est des gens, là, je le dis, en moyenne, ils traînaient une dépression, là, des symptômes comme ça, pendant à peu près 17 ans, selon l'étude.
Ouais.
Et ces gens-là, on a trouvé que pour soulager les symptômes donc de la dépression, ils ont utilisé ce qu'on appelle de l'oxyde nitreux. L'oxyde nitreux, son autre nom, Richard, c'est le gaz hilarant. Tu sais ce qu'utilise le Joker là dans les films de Batman pour tout le monde part à rire incontrôlablement. Il s'avère aussi que c'est utilisé dans plein de trucs, entre autres comme anesthésiant chez les dentistes ou encore comme drogue dans des raves underground, disons-le comme ça. Il y a des gens qui prennent ça comme drogue euphorique. Mais il semblerait que à très petite dose, l'oxyde nitreux, ça peut enlever tous les symptômes de la dépression pendant de longues durées. On parle de 2 à 3 semaines là pour une seule petite dose.
Hein?
Serait inhalé, c'est comme dans le nez un peu là.
C'est comme un
spray.
Les gens qui ont de l'asthme là,
pas par la bouche mais plus un spray nasal
dans
si on veut
nez.
Là. Ouais. Et disons que là pour l'instant là, c'est une très petite étude là. Il y a une vingtaine de participants mais c'est des gens qui avaient comme je dis des grosses dépressions qui duraient, qui étaient résistantes au traitement. C'est préliminaire encore, mais sont déjà en phase 2 de cette étude-là.
C'est une percée très intéressante, très importante.
C'est une autre avancée aussi qui est faite par rapport aux drogues. On découvre qu'il y a de plus en plus de problèmes mentaux. Des drogues qu'on a bannies, qui sont illicites depuis des années, sous certains dosages, sous certaines formes, peuvent traiter...
Donc, gaz hilarant. Ouais. Est-ce que les livres de jokes de Gilles Latulippe sont aussi étudiés? Non, je sais pas vraiment. Un chien perdu qui a été retrouvé dans de drôles circonstances.
Ouais, une petite nouvelle de chien aujourd'hui en Idaho. Il y a eu un accident qui s'est passé dimanche dernier. Une petite famille qui était avec leur chien qui s'appelle Tilly. Ce chien-là, qui est un border collie, là, tu sais, ces chiens athlétiques, là, qui courent toujours. Leur chien de 2 ans. Ils ont eu un accident sur l'autoroute et quand ils se sont fait frapper par une autre voiture, le chien a revolé par la fenêtre en arrière de l'auto. Floum! Puis, quand ils se sont sortis de l'auto, personne n'était blessé, heureusement, juste très sonné. Le chien, qui était, lui, tout étourdi, mais pas blessé vraiment, est parti à la course. Et là, il y a des gens qui sont sortis de leur voiture, ils ont appelé, cherché leur chien pendant près de 10 heures. C'est une route rurale là, qui passe en plein milieu de nulle part. Ils ont cherché le chien, ils ont fini par se rendre chez eux, ils l'ont pas trouvé. Ils étaient tristes. Cette semaine, ils ont partagé ça sur les réseaux sociaux. Il y a eu des repartages et des repartages et des repartages pour tenter de retrouver le chien. Et finalement, cette semaine, le chien vient d'être retrouvé, Richard. Mais sais-tu où? Il était dans un champ en train de guider des moutons. Parce que c'est une espèce de chien berger à la base, ça. Tu sais, un border collie, ça peut servir.
C'est leur instinct.
Ben, oui, parce que c'est un chien de maison, là. C'est pas un chien qui a fait ça dans sa vie. Et pourtant, quand ils ont retrouvé le chien, puis on dit avec assez peu de succès, merci, mais tenter de guider les troupeaux de moutons. Puis ça faisait 2 jours qu'ils étaient là, en train de guider des moutons. Et ils ont retrouvé leur chien, il était sain et sauf. Mais c'est drôle, qu'est-ce que l'instinct d'un chien peut faire.
Mais là, il devait pas être content de retourner à la maison, lui-là. Là. C'était la vie libre, il retrouvait ses instincts, il guidait les moutons. Il était fait pour ça, il est programmé pour faire ça.
C'est fou quand même, hein. Des fois, là, la génétique, l'instinct d'un animal comme ça, là, c'est fou ce que ça peut faire. Fait que heureusement pour eux...
Il a spoté un troupeau de moutons, puis il a dit, ah oui, c'est ça. Je suis faite pour ça, moi, là, les guider. Trop drôle. La nouvelle guerre de la Corée du Nord.
Ouais, Richard, la Corée du Nord, là. Puis, tu sais, on apprend toujours ce qui se passe au compte-gouttes, là. Souvent, c'est des événements qui se passent là, depuis des mois, puis on commence à les apprendre de temps en temps sur la Corée du Nord. Je te présente, Richard, le nouvel ennemi de la Corée du Nord. On entend, Richard. C'est de la K-pop, hein. BTS, ce groupe qui ont des milliards de visionnements. Littéralement, je dis des milliards de visionnements sur YouTube.
Mais j'écoute ça, là. Ça ressemble à toutes les autres tunes pop. Tu sais, pourquoi cette tune-là? Pourquoi ce band-là plutôt qu'un autre?
En Asie, il y a beaucoup de gens qui écoutent ça. Puis quand t'as beaucoup de gens en Asie qui écoutent quelque chose, le prorata de population est pas mal plus élevé. On peut le dire comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui adorent la K-pop, même ici en Amérique. S'il y a quelqu'un qui aime pas ça, par exemple, c'est Kim Jong-un, hein, le dictateur de la Corée du Nord, qui a déclaré là la guerre, littéralement, dans les derniers mois.
Pourquoi ça véhicule des valeurs occidentales dangereuses?
Exact, mais c'est surtout les valeurs sud-coréennes. Ils sont, évidemment, juste l'autre côté de la frontière. Et depuis toujours, le régime nord-coréen essaie d'empêcher leurs citoyens d'apprendre ce qui se passe en dehors du pays. Parce que quand eux se mettent à réaliser que... ben des famines constantes, c'est pas normal, puis dans les autres pays les gens font des régimes pour tenter de maigrir pendant qu'eux ont de la misère à avoir de la nourriture sur leur table.
Ben oui.
C'est sûr que ça déstabilise le régime, et là Kim Jong-un a déclaré la guerre à la culture sud-coréenne, entre autres la K-pop, ces musiques là parce que il y a des gens, il y a des réseaux sud-coréens qui font tout pour emmener de manière illégale du matériel sud-coréen, des films, de la musique, des images, des magazines, des vêtements.
Sur des clés USB.
Sur des clés USB, ça circule énormément et c'est en train vraiment de montrer aux Nord-Coréens des valeurs occidentales qu'ils ne connaissent pas.
Mais c'est la culture aussi qui était souvent à la source de plein de révolutions. Ça commence comme ça. En Russie aussi, tu sais, ils lisaient des livres qui étaient interdits là-bas, puis tout ça.
Ouais, puis il y a vraiment une panique là, au niveau du régime. Si bien que Kim Jong-un a appelé ça un cancer vicieux qui corrompt la jeunesse nord-coréenne. C'est surtout les jeunes qui consomment de ce genre de culture-là. Et évidemment, comme tout bon régime depuis... évidemment, c'est trois générations de régime quand même nord-coréen. Là, c'est un régime durable, qu'on en dira ce qu'on voudra.
Ça va tomber, ça, à un moment donné. Ils peuvent pas garder un peuple au complet dans l'ignorance, voyons.
Pour l'instant, ça semble tenir, mais évidemment, il a dû prendre des mesures contre ça. En décembre dernier, puis là, c'est là qu'on l'apprend... en ce moment, 5 à 15 ans dans des camps de concentration et de rééducation si tu es pris avec du matériel sud-coréen, du matériel culturel sud-coréen. Avant, c'était jusqu'à 5 ans de travaux forcés. Maintenant, c'est à
l'autre. Là, si t'écoutes ça, tu peux mettre encore, Achille, un petit bout. Si t'écoutes ça, c'est 10 ans de travaux forcés.
Ouais, 15 ans. Tu peux aller jusqu'à 15 ans dans des camps de concentration. Je dis ça avec ta joie dans la voix là, mais c'est assez tragique.
C'est fou.
Évidemment ce qui se passe là-bas. Puis en ce moment, t'sais, ça corrompt même les relations, dit-on, en Corée du Nord, parce que lorsque une femme va sur une date avec un homme, elle est tenue habituellement de l'appeler comrade, hein, camarade, ben oui. Comme dans tout bon régime communiste. Mais là, on a beaucoup qui commencent à dire opa, ce qui veut dire honey. Mon petit miel en coréen. Donc, c'est complètement affreux et inacceptable pour le régime.
Et en terminant, alors, un complot donc qui implique le Canadien de Montréal.
Ouais, mais ça a été repris par la page de Xavier Camus ce matin, puis sur d'autres sites reliés. Ouais, mais tu sais, ils mettent souvent des vidéos de complotistes, puis ça a été repris par des pages de fans du Canadien. Pis ça fait bien réagir. C'est une vidéo, puis écoute, je vais t'inviter à l'écouter parce que c'est impossible de présenter mieux que cet homme. La sombre théorie du complot entourant le Canadien de Montréal, Richard.
Gardez le focus, parce qu'ils vont tout essayer pour vous endormir. Hein? Regardez-moi ça. Ils vont même nous faire gagner la Coupe Stanley. Même nous faire gagner la Coupe Stanley pour nous vacciner. OK, guys? Donc, restez réveillés. Laissez pas les Canadiens vous endormir. OK? Ne laissez pas les Canadiens vous endormir, parce que c'est vraiment bizarre ce qui arrive en ce moment-là, ok? Tout à coup, les Canadiens de Montréal sont les meilleurs, c'est la meilleure équipe au monde, ok?
Ok, c'est ça, c'est-tu le gars qui haranguait les gens sur les terrasses sur Grande Allée à Québec récemment, qui était un complotiste, puis tout ça.
Je sais sincèrement pas.
Mais donc, ça, c'est arrangé avec la Ligue nationale de hockey pour dire, vous allez perdre, faites gagner les Canadiens qui sont des gens bons, puis là, ça, grâce à ça, les gens vont avoir envie de se faire vacciner.
Ben, peut-être, c'est peut-être en réaction à la chronique de notre collègue Mario Dumont aussi, hein, qui parlait, les gens avec une double dose devraient pouvoir retourner au Centre Bell, qu'on stimule un peu les choses comme ça. C'est peut-être une réaction à tout ça. Je viens de le voir, là, j'ai pas beaucoup d'informations sur tout ça, mais je tenais à le présenter. Écoute, le Canadien, ils font gagner le Canadien. Je pensais que c'était grâce à nos bons joueurs, valeureux, du talent, Dominique Duchamp, qui joue bien ses lignes, mais non. C'est le gouvernement mondial.
Qu'est-ce que tu fais à Benoît, là? Il est en train de pleurer dans son coin, Benoît.
Non, je pleure pas. Je me dis, vite les vacances. Vite les vacances. Je suis plus capable. Là, ça fait quoi, un an et demi que ça dure, là? Ça fait un an et demi, là, les complotistes, puis les Maxime Bernier. Je suis plus capable.
Il est tellement en mode vacances qu'il est venu avec son haut de pyjama.
Ah!
Benoît.
Oh, puis tu t'habilles encore chez Tip Top, même si c'est fermé. change de cassette. Renouvelle ton vieux répertoire de jokes.
Non, c'est chez Beauvais, moi, avec le poids que j'ai pris, là, c'est chez Beauvais.
Daniel Manufacture.
Merci, Alexandre Morinville-Ouellet. Benoît.
J'ai oublié mon line-up chez nous. Ça me fait chier. J'ai tout préparé d'émission. J'arrive ici, j'ai juste à me le transférer.
Tu l'as
oublié.
Pas.
Je t'aboute. Il est temps que je parte en vacances.
Sais-tu quoi?
Je vais improviser.
Ton émission va peut-être être meilleure.
Peut-être. Plus spontané, plus improvisé. Tantôt, il y a Ulrich Legrand qui s'est mérité un prix de l'entrepreneuriat environnemental. On va lui parler pour capter les CO2 puis en faire un produit chimique commercial. Je sais pas si on réalise. Si tu réussis à capter les CO2... on peut se remettre à polluer.
Eh oui.
On peut se remettre à vivre, puis à vomir partout, puis à prendre des gros chars, des pick-up, puis à être heureux.
Qu'est-ce qu'on va faire avec le CO2?
Il va nous l'expliquer. Là, c'est un produit chimique, puis ça s'appelle de l'acide formique. Puis ça vient des fourmis, paraît-il. Puis bref, on va voir de quoi ça a l'air. À 11h, on va parler de ce cas de 12e féminicide.
Ouais.
Là, tu dis, on fait de la publicité, on investit dans les organismes, on confisque les armes du gars, puis il tue pareil.
Ouais, on confisque ses armes parce qu'on considère qu'il est dangereux.
Mais
s'il est dangereux, l'affaire, c'est que c'est très difficile actuellement d'interner quelqu'un contre son gré. Peut-être que avant c'était trop facile.
Avant, c'était surtout des femmes qu'on internait.
Oui.
Tu sais, quand le monsieur était tanné de son mariage, il disait « Madame est folle », il l'internait. On veut pas ça. Fait que, bref, on va revenir là-dessus. Et à midi, on a M. Baudry de la Ville de Montréal. On remet pour $1 milliard à l'Université McGill, l'hôpital Victoria. Alors là, j'ai lu ce matin le plan de construction, de destruction de certains bâtiments, comment on va avoir accès au site et à qui ça va appartenir. Ce sont les contribuables qui payent, mais c'est l'Université McGill qui va en être propriétaire. Monsieur Legrand travaillait à l'Université McGill. C'est une grande université. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais avec tout l'argent dont elle dispose, cette université-là doit être grande. Parce que les autres universités, s'ils avaient accès à autant de fonds, seraient peut-être meilleures.
Et pourquoi on dit pas de cet établissement hospitalier-là qui pourrait être utilisé par les trois universités en même temps?
Par exemple. Bref, c'est ce qui s'en vient à l'émission.
Je suis très désolé de t'avoir déprimé hier. Je t'ai déprimé hier parce que Benoît et moi, on tripe sur le Rat Pack, là, Dean Martin, Frank Sinatra. J'ai envoyé un texte d'un livre qui a été écrit par un ami de Frank Sinatra sur ses derniers jours, là, les dernières années quand il était vieux. Puis le gars, sa job, c'était d'y mettre son pyjama. Enfin, il déshabillait Frank Sinatra, puis il mettait son pyjama. Puis le dernier souper qu'il y a eu, Frank Sinatra, quand il a rencontré Dean Martin, ils se sont parlé des trucs que tu mets dans l'oreille pour mieux entendre.
Ouais.
Et je t'ai envoyé ça, puis t'as dit...
Garde-les pour toi à l'avenir.
Okay.
Envoie-moi les affaires.
Benoît, t'as tout déprimé.
Oui, j'étais un peu déprimé.
Fait que t'as bu?
Non.
Non?
Oui. Ah oui, quand même.
Bon week-end. Merci beaucoup.
Si vous ramener les Muppet Show, on va le faire, nous autres, à la galerie. Les deux vieux, pas fin tannés de tout.
Il y a quelqu'un qui me dit les tontons flingueurs qu'on devrait faire. Toi et moi. Alors, Florence Lamoureux, merci beaucoup, notre recherchiste. Merci. Maude Boutet qui nous a donné un coup de main. Achille Moinet, l'incontournable à la réalisation à la console. Passez un super beau week-end. Il va faire beau. On se parle lundi 8h et on écoute Benoît.
C'est gratis.